format respecté.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, il est 11h, vous êtes sur Radio Balistique, c'est dimanche ou c'est un autre jour selon le moment où vous écoutez l'émission, mais en tout cas c'est format respecté, la quinzomadaire qui parle de cinéma sur Radio Balistique, et il y a David face à moi.
Eh oui, bonjour Antoine, bonjour à tous.
Bonjour David, vous allez bien ?
Bah ça va bien ma foi.
Alors nous sommes le 28 juin, au moment de la première diffusion de cette émission, mais c'est pas du tout la fin de saison, format respecté va aller...
On joue les prolongations.
Va aller jusqu'à fin juillet, parce que la dernière émission, il y a 15 jours, on vous a parlé d'Alfred Hitchcock dans une période un petit peu florissante. Il va falloir quand même qu'on finisse notre panorama, notre rétrospective Alfred Hitchcock, et ce sera pour dans 15 jours, donc courant juillet. Et d'ailleurs, pour l'occasion, Martin nous rejoindra, parce que la rétrospective Hitchcock, on l'a faite sans lui, mais ce serait pas mal aussi d'avoir son petit grain de sel dans ce panorama hitchcockien. L'émission d'aujourd'hui est une émission de forme classique avec trois rubriques. On va commencer par un dictionnaire, on poursuivra par un jeu et on terminera par un tiercé. Et je pense que dans l'histoire de format respecté, en tout cas dans l'histoire de format respecté à deux, c'est probablement l'un des plus grands désaccords qu'on puisse avoir, David et moi. Je lui ai fait subir, hein, on va employer ce terme-là, le tiercé d'une cinéaste. Je crois qu'il n'a pas trop aimé. Moi, j'essaierai de défendre pourquoi il me semble tout de même que ce sont en tout cas deux d'entre eux, en tout cas un d'entre eux, des films importants dans l'histoire du cinéma. Et ça, ce sera dans la dernière partie de l'émission. Étant donné que cette émission, vous l'avez bien compris, est gorgée comme une outre, je vous propose de démarrer tout de go.
Format respecté. Le dico de format respecté.
Silence.
Et c'est à vous, David, que revient la responsabilité du dico ce mois-ci. Quelle lettre avez-vous choisi ?
Eh bien, j'ai pris la lettre P. P comme puzzle, film puzzle.
Ah, oui, je comprends. Non, vous n'avez rien compris du tout. Allez vous asseoir.
Alors, expliquez-nous ce que vous entendez par film puzzle.
Oui, alors, il peut y avoir évidemment plusieurs...
Oui, c'est un accident.
Voilà, mais c'est pas grave, c'est une belle musique. Nous y reviendrons. Alors oui, par film puzzle, alors, il peut y avoir plusieurs acceptations. En fait, quand j'ai réfléchi un peu à l'arrache, hein, comme souvent, à cette rubrique, j'ai eu l'idée de ces films un petit peu déconstruits narrativement. Alors, soit des films qui sont montés dans le désordre, soit des films montés carrément à l'envers. On va y revenir, j'ai au moins deux exemples. Des films qui, en tout cas, narrativement, ne sont pas linéaires et surtout chronologiques dans ce qu'ils racontent. Alors, il peut y avoir plein de raisons à ça, hein. Ça peut être des films à caractère, alors, soit un peu policier, soit à caractère suspense, choses comme ça. C'est-à-dire qu'ils réservent des révélations pour le plus tard possible, mais pour les donner le plus tard possible, ça implique de déconstruire un peu le récit. Ça peut être ça. Ça peut être une volonté un petit peu stylistique, comme les films montés à l'envers. Je vais peut-être en parler d'ailleurs tout de suite. Les deux exemples que j'avais, il y a un film américain, un film français. Il y avait Memento de Christopher Nolan et puis Irréversible de Gaspard Noé, qui sont deux films présentant cette caractéristique de commencer un petit peu par par leur fin et puis de plus on avance dans le film, plus on remonte en fait la narration.
Voilà. Alors Memento, c'est un tout petit peu plus compliqué. Ça,
alors,
c'est
plus
une
compliqué
double narration,
que...
c'est un film sans tripette en fait. C'est-à-dire qu'il y a deux narrations, l'une qui va dans le sens chronologique, l'une qui va dans l'autre sens, et elles vont se rejoindre sur un point qui est la fin, mais qui est le milieu, c'est-à-dire le début de la deuxième partie.
Oui. Enfin, voilà. Bah, on est chez Nolan, hein, donc
c'est quand même
très simple.
La narration non linéaire est quand même une récurrence chez Nolan. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup la question du temps. Hein, c'est la grande préoccupation probablement de son cinéma, et dans cette préoccupation autour du temps, bah, la narration devient un outil. Un film comme Tenet, par exemple, repose sur le dispositif que vous venez de mentionner, c'est-à-dire avec une construction anti-chronologique aussi.
Ouais.
C'était d'ailleurs le cas dès son tout premier film, hein, Following.
Following, alors que j'ai pas vu, moi, c'est le seul de ces films que j'ai pas vu, mais oui, je crois que
je l'ai vu il y a longtemps, mais reposait aussi sur une narration déconstruite, et c'est le cas également du Prestige.
Le Prestige,
et c'est le cas également de Oppenheimer avec ses trois temporalité qui s'entremêle.
Puis il y a même des tout petits échos à ça dans certains de ces Batman pour expliquer certains passages, etc. On a des mini pétages de narration. Voilà. Donc c'est vraiment extrêmement récurrent chez lui. Et puis alors Gaspard Noé, où là, effectivement, chaque séquence se passe Chaque séquence que l'on découvre se passe en fait après la précédente et ainsi de suite pour arriver ce qui donne un effet un peu étrange parce que le film commence par les choses les plus brutales, etc. pour arriver finalement en fin de parcours à une situation plutôt
joyeuse,
ce qu'on appelle la situation initiale dans le récit classique, situation initiale où il n'y a pas encore eu les problèmes qui sont arrivés. Et voilà, donc Irréversible est un film extrêmement étrange à ce niveau-là. Donc voilà, film monté à l'envers, c'est vraiment ça. Alors il y a peut-être d'autres occurrences, je ne sais pas si vous en avez d'ailleurs Antoine, pour des films vraiment montés à l'envers sur ce principe.
Non, il me semble que Irréversible est probablement le film le plus marquant là-dessus, ouais. Sur cette idée que oui, chaque nouvelle séquence est à intellectuellement replacer avant celle qui arrive.
Voilà, c'est ça. Alors ça peut être aussi donc, des films de point de vue. Alors j'en avais deux en tête et des exemples archi connus des classiques du cinéma, Citizen Kane et Rashomon. Oui. Qui sont dans les deux cas des films déconstruits et dont le puzzle narratif est reconstitué par des points de vue. On va voir des personnages, interroger des personnages au cours du récit qui vont donner leur version de l'histoire. C'est le cas pour l'histoire de Charles Foster Kane dans le film de Orson Welles. C'est le cas de Rashomon où on a le point de vue des différents protagonistes. Et d'ailleurs, la particularité de Rashomon, c'est d'avoir des versions assez différentes des faits dans chaque version donnée. Donc là encore, ce sont des procédés narratifs extrêmement marquants. Rashomon est connu pour ça. Et vous nous aviez d'ailleurs fait une rubrique, Antoine.
Oui, sur les faits Rashomon. C'était un quoi-qu'est.
Voilà. Ouais. Donc c'est tellement emblématique que ça a donné son nom à un procédé. Et puis bah, Citizen Kane est connu pour ce côté un peu puzzle. Et d'ailleurs, il y a une espèce de métaphore de la vie de Charles Foster Kane elle-même qui est un véritable puzzle. On le voit avec ce plan à la fin de tous les objets qu'il a amassés au cours de sa vie. On se balade dans cette espèce de grande pièce où il y a tous les objets cumulés par le personnage. Il y a un côté puzzle également dans sa vie. Non seulement dans la narration, mais dans sa vie. Alors, j'ai listé d'autres films qui, pour des raisons diverses et variées, jouent avec la narration. Alors, un des grands spécialistes de ça, c'est Quentin Tarantino, qui, dès ses premiers films, l'a fait. Alors, avec Reservoir Dogs...
Et faire Rashomon, hein, dans Reservoir Dogs.
Complètement. Reservoir Dogs, et puis évidemment Pulp Fiction, film déconstruit. D'ailleurs, je crois me souvenir, dans Le Dain de Quentin Dupieux, il y avait ce passage où le personnage d'Adèle Haenel disait... j'ai remonté Pulp Fiction dans l'ordre. J'ai trouvé ça assez rigolo. Bon, truc assez vain dans l'absolu, mais elle évoquait j'ai remonté Pulp Fiction dans l'ordre. Voilà, on peut imaginer ce que ça pourrait donner. Ça pourrait être rigolo. Alors, vous disiez Reservoir Dogs qui avait l'effet Rashomon, et Reservoir Dogs qui lui-même se réfère à d'autres grands classiques du cinéma, du film noir antérieur. Bon, j'avais entre autres L'Ultime Razzia de Kubrick, hein, qui joue évidemment là-dessus.
Les Tueurs de Robert Siodmak.
Les Tueurs de Siodmak, bien sûr. Alors oui, je ne l'avais pas noté celui-là, mais bien sûr. Et ainsi de suite. On pourrait en lister pas mal. Hein. Je l'ai dit en début de rubrique, le fait d'éclater un petit peu la narration... Ça fait presque partie intégrante du polar dans pas mal de ses entrées. Le polar jouant sur des surprises et tout, parfois pour réserver la surprise, quel meilleur moyen que d'éclater un petit peu la narration pour surprendre le spectateur.
Oui, après, il y a différentes formes d'éclatage de la narration. Il y a la fameuse structure en flashback qui est très employée dès le cinéma classique, qui est une structure relativement éclatée dans la mesure où on commence par un événement final et ça va être la narration en flashback qui va nous faire arriver à cet événement final. Là, la narration est quand même plutôt linéaire avec juste un renvoi, alors que les exemples que vous citez sont surtout des films très éparpillés chronologiquement, que notre esprit de spectateur doit recomposer, d'où l'aspect puzzle
c'est ça.
De l'intitulé. Voilà.
Donc vous avez bien compris, Antoine, l'intitulé.
J'espère.
on est sur la même longueur d'onde.
Les exemples qui vont suivre doivent quand même correspondre à ce qu'on a décrit là.
Un petit peu, voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais Usual Suspects de Bryan Singer, ou alors là, c'est pareil. Nous avons alors essentiellement le point de vue du personnage joué par Kevin Spacey, mais malgré tout, même si on n'a globalement qu'un seul point de vue, la narration, elle est complètement explosée, parce qu'on a quand même beaucoup de personnages. Là, il y a vraiment un vrai puzzle, et on n'en finit pas... Là aussi, on en avait déjà parlé dans Format Respecté, mais on n'en finit pas de gloser sur les interprétations de Usual Suspects, sur les détails donnés dans les dialogues, les interactions entre les personnages. Bon, c'est assez riche à ce niveau-là. Et puis, il y avait un petit côté... Il y avait un petit côté malin hein, de la part du scénariste et puis de Bryan Singer. Il y a un côté petit malin dans ce film que j'aime bien, moi. Mais...
Absolument fan de ce film.
C'est
simplement, je pense, un de mes films des années 90 préférés.
Ouais.
On pourrait quand même questionner la nature de montage non linéaire, puisque pour qu'il y ait chronologie, il faut qu'il y ait des événements. Oui. Or, la plupart des événements qui nous sont présentés dans le film ne se sont pas produits.
Voilà, il y a des plans menteurs. Enfin, on en a parlé, mais... Un jour, on fera une émission spéciale, je pense, je le suspecte, et on fera pas le tour du problème.
Ouais, c'est clair.
Toujours est-il qu'il rentre dans la rubrique. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre pour rester un petit peu dans le registre du film noir, etc. Alors, bon, il était une fois en Amérique de Sergio Leone avec sa narration, pareil. Alors, film fleuve avec sa narration un peu éclatée, voilà.
Alors là, vous rentrez dans une catégorie qui m'intéresse beaucoup. Moi, c'est les films mentaux.
Oui.
C'est-à-dire, c'est un personnage. On plonge dans l'imaginaire d'un personnage. Alors là, c'est le personnage de De Niro dans la fumerie d'opium. Et la narration éclatée, puzzle, vient du fait que dans cette espèce d'état secondaire de demi-sommeil, des bribes de choses vont arriver et on va avoir des éléments qui sont pas chronologiques, qui vont se superposer, qui vont s'adjoindre les uns aux autres. Et on a des films comme ça pour lesquels on a l'impression d'être dans le cerveau d'un personnage et que ce qui nous arrive est complètement désordonné, mais le fait que ce soit désordonné nous renseigne sur l'état dans lequel se trouve le personnage. Ouais. Et ça, moi, je trouve ça assez, cinématographiquement, tout à fait passionnant.
Et puis, à rajouter une dimension fantasmée, c'est-à-dire que dans ce qui nous est montré, on peut aussi penser qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas arrivées, qui sont peut-être dues complètement au fantasme mental du perso. Donc là, on est vraiment dans une dimension encore plus compliquée.
Dans ce registre-là, moi, je mettrais par exemple Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Je viens de me prendre un micro sur la tronche. Parce que on a probablement des éléments là-dedans qui sont quelque chose de l'ordre du fantasme du personnage de Joel, joué par Jim Carrey.
Oui, tout à fait. Alors, en cousinage de Il était une fois en Amérique, mais beaucoup plus rationnel dans sa structure, on va dire, Le Parrain deuxième partie. Là où le premier film de Coppola était très, très linéaire, le deuxième joue un petit peu avec les périodes. On suit la vie du personnage joué par Brando dans le premier, qui est donc interprété par De Niro dans le second. Mais Coppola éclate un petit peu la narration, là encore, pour réserver, alors pas forcément des surprises qui vont nous mettre par terre, mais pour réserver une narration qui sort un peu de l'ordinaire et puis surtout maintenir en haleine le spectateur sur un film, là encore, un peu fleuve. Donc, j'ai encore 3-4 petits titres à citer. J'avais, alors, dans un registre très très différent, j'avais L'appartement de Gilles Mimouni avec Vincent Cassel, Monica Bellucci, Romain de Boringer. Film que j'avais beaucoup apprécié. Alors là encore, on est dans les années 90. Alors, je crois que c'est la seule réalisation pour le cinéma du cinéaste. Mais film que j'avais trouvé extrêmement sympathique. Mais alors pareil, avec une narration, on assiste à des événements dans la première partie du film auxquels on n'a absolument pas l'explication. On se dit, mais pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qui se passe là, etc. Et il y a vraiment un jeu dans la mise en scène de Mimouni, parce qu'il y a certains plans que l'on voit qu'on ne comprend pas complètement, des portes qui bousculent quelqu'un, des choses comme ça. Alors, je n'ai pas tous les détails, j'ai pas vu le film ces derniers temps, mais des plans qui trouvent une explication plus loin dans le film, parce qu'on revoit la scène, mais sous un autre angle, et du coup, on comprend ce qui s'est passé, et par l'occasion, ça explique un petit peu les rapports entre les personnages. Donc, film un petit peu ludique à ce niveau-là. C'est à la base un truc plutôt romantique, avec une atmosphère juste un peu étrange. On n'est pas dans du polar, forcément, mais c'est un petit peu la narration puzzle adaptée au film romantique. Ça donne quelque chose d'assez étrange, d'assez... En plus, il y a un petit côté rétro dans l'esthétique et les décors du film. C'est L'appartement, c'est un film un peu oublié, mais que j'apprécie assez, moi, que je trouve assez sympathique.
Ouais, c'était que vous avez déjà mentionné.
Je crois. Et puis les débuts de comédiens comme Bellucci, Cassel, des gens qui ont quand même eu un nom, se sont fait un nom par la suite. On va rester du côté du cinéma français. Il y a le film Coupé de Michel Hazanavicius, que j'aime beaucoup, parce que là, c'est pareil. On a, dans sa première partie, tout un bloc de films qui se passe avec des personnages, etc. On ne comprend pas les interactions. Le film est assez barré à ce niveau-là. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, c'est sorti en salle, il y a un truc pas maîtrisé, c'est le bordel, c'est un film amateur. Et puis, toute la suite du film, alors on revient quelques temps en arrière, et puis, petit à petit, ça va nous permettre d'appréhender tout ce qu'on a vu au début. Sous un angle différent, on va comprendre les aberrations, les trucs qui nous paraissaient débiles, on va comprendre qu'ils ont en fait un sens. Je conseille Coupé. Oui. Pareil, hein, qui est pas.
Là, pour le coup, le côté puzzle est vraiment tout à fait marqué, puisque les choses ne prennent du sens qu'à partir du moment où les pièces viennent à s'emboîter.
C'est
et
ça.
Dans la première partie, elles ne s'emboîtent pas du tout.
Ah,
là,
c'est
un
bordel.
Gros bordel.
Et
progressivement, tout prend du sens.
Voilà. Donc, vraiment, il rentre complètement dans la catégorie. Et c'est un film, par ailleurs, que je conseille parce que c'est extrêmement drôle.
Ouais, c'est
très marrant. Il y a un côté très ludique. Romain Duris fait une prestation absolument génialissime. C'est un film que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et puis on va terminer avec, alors on va rentrer un peu dans la science-fiction avec Premier Contact de Denis Villeneuve, très très beau film de SF, pour moi l'un des films les plus intelligents sur la relation être venu d'ailleurs, bon, les extraterrestres, appelons-les comme, être venu d'ailleurs et les hommes. Il y a vraiment quelque chose sur la façon de communiquer, tout ça, d'une intelligence redoutable, certainement mon film préféré de Villeneuve d'ailleurs. Et
ouais,
puis,
moi aussi je crois.
Ah ouais, vraiment. Puis un film extrêmement touchant.
Et là, l'articulation se fait entre l'interstellaire et l'intime. D'ailleurs, il y a des échos à faire avec le film de Christopher Nolan, Interstellar, qui lui aussi fonctionne sur cette dialectique.
Exactement.
Mais ce qui se passe avec le personnage d'Amy Adams, c'est très touchant, à la fois pour ce que ça nous raconte de son parcours personnel et à la fois dans les interactions qu'elle essaie d'établir avec les extraterrestres.
Ouais. Et puis alors, pour rester dans la SF, je voulais évoquer évidemment L'Armée des Douze Singes. Alors là, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le temps dans les films, préoccupation de Nolan, le temps qui est quand même le sujet de L'Armée des Douze Singes, le voyage dans le temps, l'un des films certainement les plus intelligents sur le sujet. Et là aussi, évidemment, L'Armée des Douze Singes, il a un côté déconstruit parce qu'on joue avec le temps, on est sur différentes temporalités, etc. En tout cas, le personnage de Bruce Willis se balade sur différentes temporalités et évidemment, les choses prennent leur sens au fur et à mesure que l'on assiste à des séquences dans telle ou telle époque. On arrive à la fin du film, on comprend mieux les images qui nous sont assénées à deux ou trois reprises tout au long du long métrage et qu'on ne comprend pas. Tout fait sens une fois que, non pas qu'on a remis les choses dans l'ordre, mais une fois qu'on a assisté à toutes les scènes, ok, on maîtrise un petit peu mieux ce qui s'est passé. Je crois que j'ai fait le tour de ma liste, parce que je ne l'avais pas prise dans l'ordre. Voilà, donc si vous avez des...
Ouais, je vais en rajouter deux, trois. En fait, la réflexion, quand vous m'avez soumis le sujet du Dico, ma réflexion, ça a été de dire, c'est marrant parce qu'il y en a assez peu et ils sont très marquants avant les années 90, Citizen Kane, Rashomon, etc. Et par contre, j'ai l'impression que ça devient, à partir des années 90, un vrai gimmick, à tel point qu'il y a eu une période au début des années 2000 où c'était presque curieux d'avoir un film monté chronologiquement. Dans le cinéma américain en particulier, dans le cinéma indépendant américain en particulier, on a l'impression qu'il fallait que absolument tous les films soient déconstruits structurellement. C'est par exemple le scénariste Santo Olalla pour les films d'Alejandro González Iñárritu, Amour Chienne, 21 grammes, qui sont des films complètement découpés de cet ordre-là. C'est les films un peu expérimentaux de début de carrière de Steven Soderbergh aussi. L'anglais, Hors d'atteinte, À fleur de peau, dont on avait parlé dans le cadre d'un remake, qui sont des films dans lesquels, par exemple, deux séquences vont se suivre alors qu'elles ne sont pas liées ni chronologiquement ni spatialement, mais par un raccord dans le mouvement ou un raccord sur une réplique qui va établir une fluidité dans la narration qui n'est pas chronologique ou qui n'est pas linéaire. Donc c'est des procédés assez, assez classiques. C'est aussi un procédé très classique dans le film d'enquête de manière générale. Je pensais au film de Prétoire. Dans une situation de procès, on va souvent revenir en arrière pour essayer de revoir des scènes. Et en fait, la superposition des témoignages va nous permettre de reconstituer le puzzle de ce qui s'est passé. Et c'est souvent parce qu'il manque un élément qu'on n'arrive pas à conclure. Et quand le témoignage décisif va arriver, on a l'impression vraiment d'une pièce qui s'emboîte et qu'enfin, on a le tableau complet. Je parlais des années 90-2000. Les films de David Lynch sont quand même souvent pas très linéaires. Alors là, sur la dimension puzzle, il y a incontestablement la dimension ludique. On s'amuse beaucoup à réfléchir, à recomposer les choses. Je ne dis pas qu'à la fin, toutes les pièces soient complètement emboîtées. Enfin, par exemple, dans Lost Highway, je mets quiconque au défi de reconstruire chronologiquement Lost Highway. Bon courage. Mais c'est une démarche qui était très marquée dans les années 90-2000 et dans les descendants de ces cinéastes-là, parce qu'on peut considérer que Tarantino, Nolan, Lynch, Soderbergh sont des gens qui ont quand même eu une certaine descendance ou une certaine influence sur le cinéma. Moi, il y a quelques années, il y avait un film qui m'avait vraiment bouleversé, qui était un film flamand, qui s'appelait Alabama Monroe, qui articulait l'histoire d'un couple qui se rencontre, qui monte un groupe ensemble, qui a une fille et la petite fille tombe malade et a un cancer, une leucémie, je crois, à l'âge de 8 ans. Et donc, il y a quatre temporalités qui sont les quatre moments décisifs du couple et qui sont en permanence articulées les unes avec les autres. C'est-à-dire que quand une séquence débute, on ne sait pas exactement dans quelle temporalité on est. Et ce n'est pas ça qui est important. C'est les échos qui, à travers le temps, se créent entre des moments de la vie qui donnent du sens. Et cette narration qui... pourrait a priori passer pour un truc d'un peu une afféterie de construction scénaristique, pour moi prenait beaucoup de sens dans ce film-là qui m'avait vraiment particulièrement touché. Donc voilà, des exemples, il y en aurait beaucoup. Je pense qu'on pourrait, on pourrait encore en citer un grand nombre parce que c'est devenu aussi une forme scénaristique assez, assez classique. Vous nous aviez prévu une musique d'un film que vous n'avez pas encore cité.
Non. Et Old Boy de Park Chan-wook, où là aussi, on est dans un film à révélation. Hein. Il y en a deux ou trois en fin de long métrage. Et évidemment, Park Chan-wook réserve ses effets avec une narration qui est non linéaire.
D'ailleurs, c'est un adepte hein, de la narration non linéaire parce que Mademoiselle, par exemple, adapté de Sarah Waters, se repose aussi beaucoup sur une sorte d'effet Rashomon hein, également.
Exactement. Donc voilà, donc effectivement, le cinéma de Park Chan-wook rentre tout à fait dans la catégorie. Alors je voulais proposer pour clôturer la rubrique la musique du générique de fin de Jo Yeong-wook. J'espère que je prononce bien le nom. Très très jolie musique, une petite mélodie donc, qui boucle le film qu'on entend deux trois fois d'ailleurs dans le long métrage. Musique de Jo Yeong-wook pour Old Boy.
Le vent final, hein, vous l'entendez.
Tout à fait.
Pour la musique de Old Boy de Park Chan-wook, pour illustrer ce dictionnaire de format respecté sur les films puzzle, les films déconstruits, les films non linéaires. Merci David pour ce dictionnaire. Et est-ce que je vais trouver la virgule qui permet de jouer ? Oui, elle est là.
Format respecté, le quoi-qu'est-ce ? Format respecté, le quoi qu'est-ce.
Silence.
Bon, je rappelle pas le principe du Quakest, tout le monde le connaît maintenant, et puis de toute façon, on a pris un peu de retard sur la première rubrique, donc vous allez me régler ça en 2-2.
Ouais, j'espère.
Je vous laisse poser des questions, je vous réponds par oui ou par non, tous les 6 questions, un indice, et c'est parti.
Alors, est-ce qu'on cherche une identité ?
Non.
D'accord. Est-ce qu'on cherche un film ?
Non.
Non. Est-ce qu'on cherche un genre de film ?
Non.
Non. Est-ce que c'est lié au cinéma ? Est-ce que... Donc on ne cherche pas quelqu'un, on ne cherche pas un film. Est-ce qu'on cherche... donc personnalité, non à... Que
non,
ce soit acteur,
non,
c'est non.
Non.
Non. Donc on ne cherche pas un titre. Est-ce qu'on cherche... Est-ce qu'on cherche une... Non, ce serait débile comme question. Est-ce qu'on cherche une période du cinéma ?
Non.
Non.
Est-ce... J'ai prévenu en off David tout à l'heure. Je lui
ouais,
ai dit
que ce serait beaucoup de noms.
Je vais lui donner beaucoup de noms au début, mais quand il aura Louis, il sera vraiment.
Il faut
très
juste
proche.
Tomber sur Louis. Quoi.
Voilà.
Est-ce qu'on cherche une non, catégorie non genre on a dit non. Est-ce qu'on cherche un sur quoi on pourrait partir Un objet, un truc qui apparaît dans un film, un objet, un décor, un nom, quelque chose de particulier comme ça.
Alors, un objet, non. Objet, non, voilà.
Objet, non. Alors, bon, objet, non, mais vous hésitez, donc il y a peut-être un truc... qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les décors, il y a... On cherche quelque chose qui apparaît visuellement dans un ou des films.
Alors, oui, ça apparaît dans des films, je ne suis pas sûr que ça vous aide.
Ouais, d'accord. Ça apparaît dans des films.
On est à 6.
Oui.
Je vous mets un extrait.
J'en désespérais tellement à ce moment-là que je me suis beaucoup plus occupé de la profession, et je le dis comme ça est, que de ma propre carrière. C'est à ce moment-là que, mon Dieu, j'ai fait beaucoup de travail à la société, à l'association des auteurs de films pour la recherche du droit d'auteur, que j'ai fait au syndicat des techniciens. Une œuvre de reconstitution, il n'y avait plus de syndicats, il y en avait 2 ou 3. C'est moi qui ai essayé de reformer avec Benoît Lévy un seul syndicat. J'ai signé la première convention collective du cinéma. À ce moment-là, ça m'a consolé de ne pas pouvoir faire dans les films de spectacle ce que je voulais faire.
Ouais, ça a l'air assez, bon, pas abstrait, mais un peu détaché des films eux-mêmes. C'est quelque chose qui tourne autour du cinéma.
Je peux vous dire qui on vient d'entendre.
Ouais.
C'est Marcel Lherbier. Qui
Marcel
parlait.
Lherbier, ok. Ouais. Il a fait des films, lui, donc ok. Ah, ça va pas m'aider les masses parce que des Marcel Lherbier,
bon, c'est pour
je
ça,
pas
c'est
en tête.
C'est pour ça que je vous dis que c'est Marcel Lherbier.
Est-ce que c'est quelque chose de visuel dans le décor, dans le qui,
alors,
qui...
Dans ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre du Quakes, non.
C'est pas visuel.
Voilà, ça n'est pas l'important. C'est pas le fait que ça apparaisse à l'écran.
D'accord.
Il se trouve que ça a pu apparaître à l'écran dans des films, mais c'est pas la raison pour laquelle c'est lié au cinéma.
Mais on cherche quand même un truc lié. La réponse au Quakes, c'est un truc qu'on associe instantanément au cinéma.
Ah, bah oui, bien sûr. Exclusivement d'ailleurs au cinéma.
Exclusivement au cinéma.
Ouais. Ah, mais ouais. Le but, enfin, la raison d'être de ce lien avec le cinéma n'est pas le fait que ça apparaisse à l'écran.
D'accord. Alors moi, je sais pas sur quoi partir là. Est-ce que ça s'est apparu depuis les débuts du cinéma enfin, est-ce que cet élément est lié au cinéma depuis les débuts ? Oui, voilà.
Non.
Non, d'accord. Est-ce que c'est apparu sur les 40 dernières années, 40-50 dernières années ?
Alors, votre 40 m'embête un tout petit peu.
Ah.
Parce que
ouais, sachant que j'ai dit 40-50 en plus, j'ai pas été hyper précis,
alors,
mais...
ce que nous cherchons existe depuis bien plus longtemps que 40 ou 50 ans,
ouais.
Il se trouve qu'il y a eu un changement de nom à un moment, et il se trouve que ce changement de nom a eu lieu il y a exactement 40 ans. Bon, pas que ce soit important pour vous, mais quand vous me dites est-ce que ça existe depuis 40 ans, si on parle de la réponse qui correspond au nom actuel, c'est 40 ans pile.
Ça a changé de nom il y a 40 ans. Le changement de nom, est-ce que c'est dû à un film ou ça a été quelque chose en parallèle? En parallèle de la production cinématographique, enfin, à côté de la sortie des films, il a été décidé que, tiens, ça change de nom, voilà. Ou est-ce que c'est lié à un film, ce changement?
Alors,
je ne sais pas si c'est clair, ce que je raconte.
Donc, deuxième option, c'est-à-dire que ça n'est pas lié à un film.
C'est pas lié à un film.
Il a été décidé
c'est
de manière
parallèle.
Politique que ça changeait de nom.
D'accord, ok. Waouh. Donc, 86, c'est lié à l'année 86.
Oui.
C'est passé en... Ok. Qu'est-ce qui s'est passé en 86?
Oui, alors je demande pas à ce que ça fasse partie de votre culture académique sur l'histoire du cinéma. Hein. Le fait qu'il s'est passé ce truc-là en 86, moi je l'ignorais. C'est juste que j'ai la page Wikipédia sous les yeux. Donc,
d'accord. Est-ce que c'est dans une majorité de films où ça reste ponctuel en termes d'apparition?
En termes d'apparition à l'écran,
ouais.
Je pense que je suis capable de citer deux films dans lesquels ça apparaît à l'écran, mais je vous dis que c'est vraiment pas important cet élément-là en fait. Votre question était est-ce que c'est déjà apparu à l'écran? Oui,
ouais.
Pour des raisons très particulières, mais ça a pas vocation à apparaître à l'écran quoi. Bon, on est à 12.
Ouais, on est à 12.
Je vous donne un autre indice.
Ouais, là, j'avoue que je nage.
I have a note score. I forgot my speech. Okay. I am the happiest director in the world right now. Thank you for that. Thank you, the Academy. Thank you, all of you. I want to thank my beloved producer, Thomas Langman. Thank you. I want to thank the Harvey Weinstein Company, okay? I want to thank the cast, Jean Bérénice. You know, thank you.
Ça a un petit peu vieilli les remerciements à la société Harvey Weinstein, mais bon.
Oui, c'est Azanavicius.
Oui, ou plutôt comme on l'appelle à l'époque, puisque c'est Michael Douglas qui remettait l'Oscar du meilleur film pour The Artist en 2010.
And the Oscar goes to Michel Havanavicius.
Havanavicius.
Ok.
Donc
d'accord.
C'était bien Michel Hazan.
Ouais, c'était quand il a cité Jean Bérénice, voilà. Bah, puis déjà Langman, puis on sentait bien l'accent plutôt français pour causer anglais. Ça m'aide pas. Alors du coup, est-ce que c'est The Artist
Non, c'est Azanavicius ou... vraiment l'élément important.
Ah, c'est vraiment Azanavicius. D'accord. Ah, c'est Azanavicius. C'est lié. Enfin, oui, donc c'est lié à Zanavicius. Enfin, la réponse est liée d'une manière ou d'une autre à Zanavicius.
Ah, bah, d'une belle manière, oui.
Ah, ouais. Mais qu'est-ce qu'il a fait, lui, à part quelques films? Il y avait son film, là, Le Grand Détournement. Est-ce que ça tourne autour de ses débuts de carrière avec Le Grand Détournement?
Non,
pas du tout. Ok. C'est marrant, on a parlé de lui tout à l'heure, décidément,
bah oui.
les coïncidences.
Non, c'est pas la première fois que ça arrive.
C'est pas la première fois, ouais, non, c'est vraiment marrant, ça. Enfin, c'est marrant, mais ça m'aide pas. je sais pas du tout, vers quoi aller.
Alors, je vais vous orienter un tout petit peu. Tout à l'heure, j'ai un tout petit peu tiqué sur une question qui était, est-ce que c'est un objet ou un décor? Alors, je
ouais.
vous ai répondu sur l'objet. Sur le décor, on a dit que en fait, ça pouvait apparaître
ça pouvait
à l'écran.
Apparaître, ouais.
Voilà.
Mmh.
Mais le fait que ce soit un décor, ça peut vous orienter sur quelque chose?
Non, là, je vois pas. Là, vraiment, je sèche totalement. Je sais pas quoi vous demander. Je sais pas.
Alors, pour que ce soit un décor, il faut, et pour que ça puisse, pour qu'il y ait un tournage qui puisse avoir lieu à cet endroit-là, il faut que ce soit un endroit.
Ouais.
Donc, nous cherchons un lieu.
Un lieu.
Mmh.
Ok. Un lieu.
Mais c'est un lieu qui est lié au cinéma, évidemment.
Bah le un lieu qui l'endroit où ils mettent leur comment ça s'appelle ça l'endroit où ils font mettre leurs empreintes là depuis des lustres.
Ah, le Hollywood Walk of Fame.
Walk of Fame, voilà.
Non,
merci.
C'est pas ça.
Non, c'est pas ça. Un lieu lié au cinéma. L'endroit où ils remettent les prix, les Oscars. Oui, mais c'est le même depuis des années, l'endroit où ils remettent les Oscars. Là, le...
Je ne saurais même pas.
Non, ouais.
Dire.
Un lieu lié au cinéma.
Je peux même vous donner l'adresse, je suis en train de la chercher.
Le Hollywood, là, sur la colline
Non, le lieu que nous cherchons est au numéro 6 de la rue Francoeur à Paris.
Alors, c'est quoi ça? La cinémathèque ou pif?
C'est pas la cinémathèque.
C'est pas la cinémathèque.
Mais disons qu'on s'approche.
Alors, c'est pas la cinémathèque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est lié à...
Et je crois que c'est un truc dont on n'a jamais parlé, en fait, dans Format Respecté.
D'accord. Bah, c'est que là, je vois pas.
Ce qui est fou, quand même.
Je vois pas du tout.
Je vais vous mettre j'avance un tout petit peu le
dernier
indice.
Ouais, parce que là, de toute façon, je suis largué. Très honnêtement.
Pour moi, on est à 15 ou 16, et je pense que le dernier indice peut donner une orientation. Il est un peu long.
S'il passe au troisième tour, et je ne sais pas qui sera le jury du troisième tour, mais moi, je n'assumerai pas de lui mettre plus que trois.
Oui, parce que je trouve mauvais. Ce qui me fait chier, c'est que c'est le seul, si tu veux, où je me dis, on est peut-être en train de faire, de plomber un mec.
Non, mais on est peut-être en train de virer moi. Qui a peut-être
un truc. Tu veux aussi Cronenberg, il a 18 ans, tu ne vas pas lui dire... Il devait être assez barré aussi, tu vois. Je te dis pas que le mec c'est Cronenberg, mais je te dis bon, c'est non, pas parce qu'il
là,
est barré qu'il faut pas.
Plus d'un, tu vois, Dreyer, ça devait pas être la joie de vivre à l'oral, quoi.
Ouais.
Fait qu'il soit imbuvable, c'est fort possible. Nous, on n'avait pas parlé, tu vois. Mais en tous les cas, sur le plateau, voilà, tout le monde était dedans, on était dedans.
C'est ça qui me fait peur, c'est qu'il paye sa dinguerie après, les mettant en scène dingue. Il y en a, quoi. Et que j'ai pas envie de faire la converse avec lui, alors là, aucun problème. Si tu veux, moi, s'il rentre, je pars en courant quand je le vois. Mais il est là, quoi.
Fou.
Si t'es fou, ça t'empêche pas d'être un grand metteur en scène. Ce que je voudrais pas, c'est qu'on empêche un mec de faire ce qu'il a à faire. Parce qu'il est dingue.
Mais c'est pas parce qu'il est dingue.
Il est doué et dingue.
Parce qu'on fait quand même des métiers, il faut savoir un peu communiquer.
Parce que tu donnes un point de vue unique de ce que doit être un metteur en scène. C'est ça qui me fait chier.
Tu dis
un metteur en scène, ça doit communiquer. Regarde le mec de Drive, le mec de Drive, il ne sait pas communiquer. Hein.
Non plus. Mais du tout.
C'est-à-dire que tu vois un documentaire sur ce mec, il est fou allié. N'empêche, c'est un génie. Enfin, tu vois, quand tu vois ses films...
En tout cas, disons que c'est un metteur en scène, tu vois.
C'est un génie.
Oui.
Moi, j'ai peur de ça, qu'on se foute dans un truc de genre, ça ne nous correspond pas, alors on l'éjecte. Et moi, ça me fait toujours peur, parce que c'est des positions où finalement, qu'est-ce qu'on fait? On dit, celui-là, il rentre parce que je l'aime.
Ok. C'est rigolo à écouter, même, je dirais pas passionnant, mais je vois pas. Je ne sais pas ce que je cherche.
Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? On vient d'entendre la discussion de plusieurs femmes, il se trouve, qui composent un jury.
Oui.
Un jury pour déterminer qui peut passer au troisième tour parmi les candidats qu'ils ont vus.
Mmh.
Candidats à devenir réalisateur.
Mmh.
Quel est l'endroit en France où on forme les réalisateurs?
La FEMIS?
Oui, c'est la FEMIS.
Ah, ok. Alors là, j'y étais pas. Hein.
Alors, on cherchait.
Ah, là, j'y étais pas du tout.
Voilà,
okay.
On cherchait aujourd'hui la FEMIS. La FEMIS qui, en fait, a été fondée par Marcel Lherbier, d'où le premier indice.
C'était Lherbier.
1943.
En réalité,
fondateur de l'IDEC, hein, l'Institut des hautes études cinématographiques.
Oui.
Fondé en 1943 par Marcel Lherbier, dont on entendait dans l'extrait à quel point c'était quelqu'un qui avait conscience de l'importance du syndicat, de la formation, enfin, de l'éducation autour des métiers du cinéma. Et puis, c'est sous l'initiative du ministère de la Culture ou secrétaire d'État Philippe de Villiers, à l'époque, en 1986, d'accord, l'IDEC va changer de nom pour devenir la FEMIS, et que le président du conseil d'administration actuel de la FEMIS, c'est Michel Hazanavicius. Donc, okay, ce n'est pas en tant que réalisateur, d'accord, que je le sollicitais, c'est en tant que président du conseil d'administration de la FEMIS. Alors, pour donner très rapidement une liste de réalisateurs passés par l'IDEC en France, bah, vous avez Alain Resnais, Claude Sautet, Louis Malle, Alain Cavalier, Claude Miller, Costa Gavras, Claire Denis, etc., etc. Enfin, c'est assez hallucinant. Et pour les nouvelles générations sortant de la FEMIS, bah, vous avez des gens comme Arnaud Desplechin, Laetitia Masson, Noémie Lovski, Pascal Ferrand, Éric Rochant, et puis vous avez la nouvelle génération des gens qui sortent de la FEMIS. Alors, assez curieusement d'ailleurs, davantage de la section scénariste que de la section réalisation. En fait, quand vous regardez les gens qui comptent dans le cinéma français d'aujourd'hui et dans le jeune cinéma français, vous vous rendez compte qu'un très grand nombre d'entre eux sont des anciens étudiants de la Fondation européenne pour les métiers de l'image et du son, dans lesquels il y a donc plusieurs sections. Il y a la section image, la section son, la section scénario, la section réalisation. Mais des gens comme, je ne sais pas moi, le réalisateur du règne animal, Thomas Caillet, par exemple. Je viens de mentionner Céline Sciamma, Emmanuel Berco, par exemple. Enfin, Julia Ducournau, Justine Triet, bien sûr, lauréate de l'Oscar et de la Palme d'Or pour Anatomie d'une chute. Michael Hers, enfin voilà, la liste des jeunes gens qui font le cinéma français actuel et qui sortent de la FEMIS est quand même assez impressionnante. François Ozon, bien sûr, enfin voilà, ça reste quand même le principal mode d'accès à la réalisation de cinéma en France aujourd'hui. Il y a d'autres écoles, hein, il y a l'école Louis Lumière, c'est presque un passage obligé pour se faire un nom. ce choix de Quakes m'a été inspiré par l'avant-dernier numéro de Positif, qui a fait tout un dossier, la revue mensuelle consacrée au cinéma, qui a fait tout un dossier sur l'éducation du cinéma en France. Et donc, je voulais mettre en avant cette école très particulière qu'on a en France, la FEMIS, donc comme je le disais tout à l'heure, Fondation Européenne pour les Métiers de l'Image et du Son, depuis 1986. Et je voulais juste vous passer un extrait sonore, qui est un extrait de la bande originale de Belle Épine, le premier film de Rebecca Zlotowski, qui avait contribué à faire découvrir Léa Seydoux à l'époque, et qui était une adaptation en long métrage du scénario de fin d'études à la FEMIS de Rebecca Zlotowski. Musique de Rob, alias Robin Couder, connu dans le monde de la musique électronique, notamment pour avoir collaboré avec Sébastien Tellier ou Phoenix. C'était pour le film Belle Épine de Rebecca Zlotowski. J'ai oublié de mentionner que le troisième extrait qu'on avait entendu tout à l'heure, cette discussion issue d'un jury de la FEMIS, c'est pas moi qui l'ai enregistré, petite souris, en allant m'introduire dans les cercles discrets des jurys. C'est le documentaire réalisé par Claire Simon il y a quelques années qui s'appelle Le Concours, tout simplement. Et si on veut comprendre comment fonctionne la FEMIS et comment sont recrutés les étudiants de la FEMIS, c'est absolument passionnant. Et je vous propose d'aborder consécutivement à ce quoi qu'est-ce la dernière rubrique de ce format respecté. Qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre ça.
Format respecté. Format à respecter, le portrait.
Silence.
Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce portrait, pour lequel je pense que David va éprouver une forme de ressentiment à mon égard.
Pas du tout.
Il se trouve que j'aime bien, dans le cadre de ces portraits, essayer de couvrir d'autres cinématographies et d'autres manières d'aborder le cinéma. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de Vera Rytilova. Vera Rytilova, ça s'écrit Chytilova, mais on prononce à la tchèque à peu près quelque chose comme Rytilova. Cinéaste tchécoslovaque, donc, qui est née en 1929 à Austria. Ostrava en Moravie, qui va avoir une carrière très importante dans les années 60, qui va être victime de la censure du régime soviétique tchécoslovaque et qui va ensuite avoir beaucoup plus de difficultés pour tourner, qui est morte en 2014. J'ai proposé à David de découvrir, parce que je crois que c'était vraiment une découverte et vous vous en remettrez pas, trois films de Vera Rytilova qui sont son premier, son deuxième et son troisième long métrage de cinéma, des films qui s'appellent Quelque chose d'autre en 1963, Les petites marguerites en 1966 et Les fruits du paradis en 1969. Donc trois films très proches chronologiquement mais très différents stylistiquement. Je donne quelques éléments biographiques pour qu'on sache comment Vera Rytilova est arrivée à ces films-là et qui est Vera Rytilova. Et puis, on discutera ensuite brièvement des films, sachant que pour moi, il y en a un qui est presque inregardable, je l'avoue, mais ça s'explique. Il y en a deux qui sont très intéressants. Il y en a un qui, pour moi, est vraiment un chef-d'œuvre. Vera Rytilova, en fait, c'est quelqu'un qui est rentré, on parlait de la Fémis à l'instant, qui est rentré dans une école de cinéma très connue qui s'appelle la FAMU, qui est une des plus grandes écoles de cinéma au monde à Prague, et qui est rentrée tardivement. Elle avait presque 30 ans quand elle est rentrée à la FAMU, et surtout, elle était la seule femme dans la section école, dans la section réalisation de l'école. Dans cette école, elle va rencontrer des gens qui s'appellent Miloš Forman, qui s'appellent Jan Nemec, qui s'appellent Ivan Passer, qui s'appellent Jiří Menzel, qui vont être les principaux acteurs de ce qu'on a appelé la nouvelle vague tchécoslovaque, associée évidemment qui anticipait le printemps de Prague, et cette espèce de manière de s'opposer au régime soviétique et de proposer un élan de liberté, en particulier adressé à la jeunesse. On connaît mieux aujourd'hui Miloš Forman, notamment parce que Miloš Forman a eu une importante carrière américaine. Mais étant plus âgée, Vera Rytilova était pour tous ces jeunes gens une forme de grande sœur. On l'a surnommée la première dame de la nouvelle vague tchécoslovaque. Et surtout une forme d'autorité morale, politique. C'était quelqu'un qui avait fait des études d'architecture et de philosophie et qui avait une structure intellectuelle, morale et politique d'une très grande exigence. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, c'est comme ça que j'ai rencontré Vera Rytilova. Moi, c'était en travaillant il y a quelques années sur Miloš Forman. J'avais vu dans les suppléments du film Ragtime, dans le coffret qui avait été consacré au film, un documentaire tourné par Vera Rytilova qui s'appelle Rytilova versus Forman, dans lequel, sur le tournage de Ragtime, Vera Rytilova est en permanence collée à Miloš Forman pour lui poser des questions sur quelles sont ses intentions de mise en scène. Je vous passe juste un extrait. On a la chance, Vera Rytilova lui parle en français. Ils sont tous les deux tchèques, mais Vera Rytilova parle en français, Miloš Forman répond en anglais. Mais surtout, vous allez entendre comme Vera Rytilova est pressante à l'égard de Miloš Forman.
Dis-moi encore une chose, s'il te plaît.
Yeah.
Tu commences à tourner une nouvelle scène aujourd'hui.
Yes.
Est-ce que tu peux me dire les idées principales pour toi qui viennent de cette scène, pour toi, quelles sont les idées principales ou l'idée principale?
Just to shoot it, just to shoot it, just to finish. It's in the script. No, no, it's in. It's not a question. No, it's not. It's not a very important scene. It's.
Mais je parle. Je vais savoir le sens. Le sens intérieur. Pour
essence.
Toi, qu'est-ce que
charm.
Tu veux garder?
Charm, music, the girl, you know.
Non, ce n'est pas le sens dedans, là-bas. C'est seulement l'histoire. Il s'agit
yes.
seulement d'histoire.
Yes.
Mais ça ne va pas. Tu n'es pas le
directeur
des histoires. Tu es un directeur, auteur directeur.
Why you didn't tell me before I started shooting? I couldn't improve it. Now it's too late. Now I have to shoot what's in the script.
Le pauvre Forman qui essaie de se débattre en disant mais c'est une scène qui est pas utile à la narration mais qui est charmante, qui est belle, etc. Non, quel est le sens? Et il y a des séquences hallucinantes où Forman, qui doit gérer un énorme tournage avec beaucoup de figurants et épuisé, se couche le soir dans son lit et en fait Rytilova est à côté du lit et continue à lui poser des questions alors que lui est en train de s'endormir. Donc voilà comment j'ai rencontré Rytilova, et si je voulais vous passer cet extrait-là, c'est parce que ça témoigne de cette forme d'exigence et d'intransigeance absolue de cet artiste qui plaçait très haut son statut d'artiste et qui surtout avait une forme d'exigence intellectuelle par rapport à la signification et à ce qu'on pouvait comprendre de ses films. Pour elle, l'histoire n'est pas importante. Elle disait « les histoires ne m'intéressent pas, les histoires ne servent qu'à amadouer les spectateurs afin que même le plus grand des idiots s'y intéresse ». Donc c'est un cinéma qui n'est pas narratif. Ça, c'est la première chose qu'on peut affirmer. Et c'est un cinéma qui est assez radical en termes d'expression symbolique et de signification politique et sociale. Parce que Vera Rytilova, elle va commencer dans ce contexte-là par, en travaillant sur des courts-métrages. Et dans ces courts-métrages, ou moyens-métrages, va se révéler cette ambition de témoigner de la position particulière de la femme dans la société tchécoslovaque des années 60. Et notamment, la manière dont les femmes, elle a elle-même été, avant de rentrer à la FAMU, elle a elle-même été mannequin, et la manière dont les femmes sont soumises à une institution essentiellement masculine et à l'oppression du regard masculin. Et ça, c'est quand même un truc qui va travailler son cinéma de manière permanente. Son premier long métrage, Quelque chose d'autre, il met en parallèle, en montage alterné, deux personnages féminins qui ne vont jamais se rencontrer. Une femme au foyer qui s'appelle Vera, partagée entre ses obligations ménagères, un mari qui la délaisse, un amant qui ne la comprend pas. Et d'autre part, Eva, une gymnaste qui est en train de préparer une compétition internationale. Et le film propose en montage alterné ces deux parcours-là, dans un registre quasiment documentaire, mais c'est la forme cinématographique et c'est l'adjonction de leur parcours qui permet de donner du sens. Donc c'est par les moyens cinématographiques que le propos du film est exalté, cette idée que, quelle que soit sa situation de femme dans cette société-là, on est en permanence soumise aux exigences de ses amants, de son mari, etc., ou aux exigences de son entraîneur, qui est quand même un sacré sale type dans le film, et que de cette situation, mécaniquement, naît une aspiration à quelque chose d'autre, d'où le titre du film. Le film ressemble assez à ce que Forman faisait à la même époque, hein, Les Amours d'une Blonde, L'As de Pique. Vous avez vu quelque chose d'autre, David ? On abordera les autres après.
Oui, ouais, je vais faire rapide. Hein. Bah, c'est alors peut-être le plus narratif, parce qu'il raconte quelque chose quand même, celui-ci, comparé aux deux autres. Mais effectivement, bon, j'ai eu du mal à me passionner pour ce que je voyais. Ça m'a rappelé en plus, alors ça, c'est pas forcément à mettre à son crédit, le noir et blanc évoque énormément le noir et blanc de la Nouvelle Vague. De cette époque, bah, de toute façon les films sont quasi contemporains, donc c'est logique, mais ça m'a vachement fait penser à la nouvelle vague française, évidemment, qu'on voyait à ce moment-là. Bon, alors le montage est extrêmement audacieux, hein, mais il y a des ellipses que je ne comprends pas, on a l'impression qu'il y a toujours une volonté de surprendre avec le montage, avec la façon de raconter, avec le... Voilà. Moi, ça m'a fait encore un peu plus sortir du truc, sachant que c'était déjà... Bon, le film fait 1h20, je sais plus. On passe la moitié du temps à voir une femme faire des gestes de gym, etc., s'entraîner dans une salle. Bon, au bout d'un moment, ouais, on a compris. Alors, j'ai eu un tout petit peu plus d'intérêt pour l'autre histoire, cette femme prise entre son mari, son amant... Mais c'est pareil, les choses arrivent de façon un peu abrupte. Tout est un peu abrupte. C'est un cinéma que je trouve extrêmement brutal, en fait. Pas violent, mais brutal, dans son montage, dans sa façon de montrer les choses. J'avoue que ça m'a pas emballé du tout. Alors, c'est le dernier que j'ai vu. J'aurais peut-être dû commencer par celui-ci.
Oui, c'est ce que je vous avais recommandé, d'ailleurs. Voilà, prenez-les dans l'ordre chronologique.
J'ai merdé. Mais bon, toujours est-il que j'ai fini par celui-là. Bon, c'était pas terrible. Mais c'était pas forcément le plus douloureux.
Bon, alors justement, on en arrive à l'évolution de la carrière de Rytilova, parce qu'après ces premiers films qui ont quand même une tendance documentaire, hein, on est plutôt dans une forme un peu naturaliste, non narrative, mais plutôt naturaliste, elle va se radicaliser dès 1966 avec son film suivant, Les Petites Marguerites. Alors, pour situer les choses, le film fait à l'époque, à sa sortie, l'effet d'une bombe au niveau international. J'ai trouvé le mot dans des articles de revues françaises de 1967. On en parle toujours encore, hein, comme Joël Chaperon, le grand spécialiste français du cinéma est-européen, indique que selon lui, historiquement, au niveau européen, Les Petites Marguerites a été une déflagration bien plus importante que ce qu'ont pu être les premiers films de la Nouvelle Vague française, comme À bout de souffle ou Les 400 coups. Sauf que c'est un film qui est relativement méconnu en France aujourd'hui. Pour situer quand même l'importance internationale du film, tous les 10 ans, la revue britannique Sight and Sound fait un classement des films les plus importants de l'histoire du cinéma. Depuis 1952, ils le font. Dans le dernier classement en 2022, aux côtés des films habituellement cités, ça a longtemps été Citizen Kane, Sueur froide, La règle du jeu, Les Petites Marguerites apparaît à la 28e place des films les plus importants de l'histoire du cinéma. Pour indication, le 27e, c'est La nuit du chasseur, le 29e, c'est Taxi Driver. Donc, pour vous situer où on place ce film-là aujourd'hui au niveau collectif, hein, ce sont des historiens, des cinéphiles, et des réalisateurs qui composent ce classement-là. C'est une anthologie, une compilation de classements. C'est pour situer l'importance de ce film-là. Et ce film-là est... Moi, j'en ai vu des trucs barrés dans ma vie, mais je trouve que c'est un des films les plus extraordinairement inventifs de l'histoire du cinéma. Un film complètement fou qui raconte pendant 1h10... rien, en fait. Il n'y a pas de récit. Ce sont deux femmes qui s'appellent Maria et Maria, qui correspondent à une entité globale qu'on pourrait associer à la féminité, qui, parce que les hommes ont jugé qu'elles étaient des filles dépravées, parce qu'elles s'habillaient de manière courte, décident de jouer le jeu de la dépravation, du chaos, de la destruction. Et c'est parti pour 1h10 d'un film complètement hallucinant, dans lequel Vera Itilova refuse de se soumettre aux impératifs habituels de la narration, va désarticuler tout, le langage, va faire de la distorsion, du découpage, de la saturation, va changer les couleurs. Elle s'en fout complètement de l'espace et du temps cinématographique habituel. Ce qu'elle veut, c'est établir une correspondance dans sa mise en scène entre ce que le film raconte, et notamment cette spirale de la corrosion surréaliste, de la destruction dans laquelle ces deux jeunes filles s'embarquent, et la forme. Et la forme, elle va être complètement folle. C'est-à-dire que le film est une succession de petites séquences de 2-3 minutes complètement autonomes les unes, et chaque séquence propose une idée de mise en scène qui est de l'ordre de ce qu'on n'a jamais vu. J'ai rarement vu un film aussi expérimental, mais d'habitude le cinéma expérimental, on se dit ouais c'est bizarre, c'est intéressant, mais finalement ça raconte pas grand chose. Là, ce qui me marque et qui fait que pour moi c'est vraiment un très 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 grand film, c'est l'adéquation totale entre la forme du film et le fond. C'est-à-dire que c'est une idée de détruire complètement l'autorité masculine, les systèmes habituels de construction des films, la narration cinématographique. On fait complètement exploser tout ça parce que c'est dès le départ, et c'est posé dès le début, la décision de ces deux jeunes filles. Et alors, je comprends que ça puisse être épuisant parce que c'est un film qui est une espèce de tambour de machine à laver qui va à toute berzingue. Mais c'est, je trouve ça incroyablement stimulant au niveau cinématographique. Alors, je crois que vous n'avez pas été stimulé, David.
Ah, pas du tout, non. Alors non, mais je peux pas nier tout ce que vous êtes en train de dire, bien évidemment. Mais les expérimentations visuelles, moi, enfin, au bout d'un moment, je dis pas que je cherchais du sens à au moindre truc que je voyais, parce que je ne peux pas imaginer qu'il y en a pas.
Donc, ah ben bah, il y en a. Et puis
voilà.
Mais donc, même pour moi, c'est assez limpide ce que raconte le film. D'ailleurs, il y a ce truc complètement fulgurant à la fin. Il y a une espèce de panneau qui s'inscrit alors que le film n'est pas fini. Mmh. Elles viennent de détruire un banquet, de se gaver de nourriture, de tout détruire. Donc là encore, c'est très symbolique sur ce qu'on peut faire quand on est une femme et ce qu'il ne faut pas faire quand on est une femme. Et il y a un panneau qui dit un truc du genre « Si ce qui vous dérange, c'est la destruction de la nourriture, c'est peut-être vous le problème » ou un truc comme ça. Mmh. Je trouve ça d'une puissance politique assez ahurissante.
Ah
quoi.
Oui, non, mais c'est puis on le sent derrière qu'il y a un côté revendicateur. On le sent. Bon, moi, j'ai eu un problème, alors, avec le aussi bien avec le fond qu'avec la forme, enfin, plus avec la forme, d'ailleurs. C'est que, ouais, non, je suis pas rentré dedans. Il y a des effets de montage, effectivement, un truc, une espèce de kaléidoscope de couleurs, de trucs de montage. Alors, c'était déjà le cas dans quelque chose d'autre. Mais dans quelque chose d'autre, il y avait des petites expérimentations avec ce que proposaient les reflets de miroir, choses comme ça, la danseuse qui, à un moment donné, est à l'envers, et puis le plan se remet à l'endroit, tandis qu'elle-même, elle pivote. Il y avait des choses que je trouvais, surtout pour l'époque, assez sympa visuellement. Il y avait un caractère inventif. Là, il y en a un aussi, sauf qu'il est il est effectivement noyé dans un chaos visuel qui m'a pas du tout emmené. Et au bout d'un moment, j'étais dans le truc complètement régressif de me dire, tiens, les deux filles là, à l'écran, qu'est-ce qu'elles me gonflent. J'étais vraiment pris là-dedans et je ne voyais plus le propos politique et revendicateur et féministe, évidemment.
Ah bah clairement. Oui.
Qu'il y avait dans le film. J'étais plus là-dessus, j'ai été un peu bloqué par la forme que je trouve extrêmement excessive. En fait, c'est ça, c'est que je pense que on a entendu tout à l'heure cet extrait avec Forman, je trouve que c'est tout à fait à l'image du personnage, parce que sa mise en scène, elle est à l'image de son côté extrême avec Forman.
Elle lâche pas.
Voilà, c'est ça. Et elle va au bout du délire. Elle part dans un truc, il n'y a aucune concession, c'est un film sans concession, je pense, il n'y a pas de problème, les petites marguerites. Mais je suis pas du tout rentré dans le délire. Alors, je comprends ce que ça veut me dire. Enfin, je comprends. Je le perçois. Mais la façon dont elle veut essayer de me l'inculquer me fait bloquer. J'ai vraiment eu beaucoup de mal. Voilà.
Alors, il y en a d'autres qui vont bloquer sur le film. C'est les autorités soviétiques qui ne vont pas l'accepter ni pour la forme ni pour le fond. Mmh. Raison pour laquelle elle va être censurée. C'est quelqu'un qui va être interdit de travailler à cause de ce film-là, Les Petites Marguerites, pendant une dizaine d'années. Elle va juste avoir une autorisation pour tourner en 1969, Les Fruits du Paradis, que je vous ai montré, dans lequel elle a été obligée de soustraire tout ce qui était de l'ordre de l'intention politique. Mmh. Ce qui fait que ce qui reste, c'est un film qui est quand même parfaitement abscon. C'est-à-dire, on a la dimension expérimentale. Les deux, trois premières minutes du film sont assez fascinantes. D'ailleurs, ce prologue qui joue complètement sur la texture de l'image, sur les couleurs. Après, ce que ça raconte, je vous avoue que moi-même, en étant un inconditionnel des Petites Marguerites, je n'arrive pas à accrocher aux Fruits du Paradis. Donc, je peux comprendre ce que vous avez ressenti. J'établis vraiment pour moi une énorme différence entre les deux films. C'est-à-dire qu'il y a un film qui ne raconte rien ou en tout cas qui ne raconte rien de signifiant, alors qu'il y a un film dans lequel l'adéquation entre la forme et le fond est fulgurante à mes yeux. Mais je comprends que Les Fruits du Paradis soient pénibles, et je crois que le problème est aussi que vous avez commencé par celui-là.
J'ai commencé par celui-là. Oui, non, mais j'aurais dû effectivement me tenir à l'ordre que vous. Bah, j'aurais dû les regarder dans l'ordre, en fait, dans l'ordre chronologique où ils ont été tournés. Ouais, là, ça a été.
Les Fruits du Paradis, qui est clairement le film le plus radical du lot, et qui est un film qui, à aucun moment, ne tend la main au spectateur pour dire rentre dans le film.
Encore moins que les deux autres, effectivement. Les deux autres, ça a été compliqué. Mais là, ouais, ça m'a vraiment refroidi, et ça a probablement, au moins en partie, influencé le visionnage des deux suivants. C'est évident. Mais j'ai pas pris mon pied avec les films de Riti Lova. Son importance, je ne la conteste absolument pas. Mais alors,
D'autant
ça a été,
plus,
ça a été compliqué.
Pour appuyer un tout petit peu sur le côté intransigeant de cette femme qui, toute sa vie, a revendiqué sa liberté absolue, contrairement aux autres acteurs de la nouvelle vague tchécoslovaque dont on a parlé, hein, Ivan Passer et Miloš Forman en premier lieu, c'est quelqu'un qui a refusé de s'exiler. Quand le régime s'est durci, elle est restée en Tchécoslovaquie, elle est devenue une des opposantes les plus importantes au régime soviétique tchécoslovaque jusqu'à la chute du bloc soviétique dans les années 80. Elle a été interdite de travailler, on lui a demandé de faire des films documentaires dans lesquels elle a réfréné complètement ses élans d'artiste, mais c'est quelqu'un qui a été toujours intransigeant d'un point de vue politique et d'un point de vue moral, ce qu'elle a d'ailleurs reproché à Forman, parce que pour lui, aller en France puis aux États-Unis était une forme de fuite par rapport à sa propre responsabilité d'artiste. Donc voilà, c'est aussi un parcours de femme que je trouve passionnant et que je voulais mettre en avant. On a un tout petit peu débordé, on va en rester ici. Juste pour information, Vera Rytilova a tourné beaucoup de films, mais il y en a très 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 peu qui sont visibles. Quelque chose d'autre tourne actuellement dans les salles françaises, grâce à un distributeur qui a ressorti ses deux premiers moyens-métrages et son premier long-métrage. Les Petites Marguerites et Les Fruits du Paradis sont sortis en DVD chez Malavida, spécialiste du cinéma d'Europe de l'Est. Le reste de sa filmographie est quasiment invisible. Je vous avoue que moi, je serais assez curieux de voir ce qu'elle a continué à tourner ensuite dans les années 80-90, parce que j'aime ces artistes libres, intransigeants, qui font du cinéma comme ils le conçoivent, sans se compromettre et avec une forme de radicalité assez stupéfiante. Donc on peut ne pas adhérer au film, et ça, en ça, je peux tout à fait le comprendre. Et d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de réserves sur Les Fruits du Paradis aussi. Mais historiquement, artistiquement, je pense que c'est une des cinéastes femmes les plus importantes du XXe siècle, raison pour laquelle je voulais la mettre en avant. On a déjà débordé, je vous propose de se retrouver dans 15 jours pour reparler d'Alfred Hitchcock. On sera un petit peu plus à l'aise, probablement.